pourquoi les sensibles propres permettent à l'intelligence de découvrir la détermination substantielle. Il faut toujours revenir à l'interrogation. C'est l'interrogation qui nous éveille. Il ne faut jamais l'oublier. Ça. Il y a l'admiration, et de l'admiration naît l'interrogation. Il y aurait tout un développement qu'on pourrait faire sur l'interrogation. Parce que il y a des gens qui n'interrogent jamais. Or, vous cheminez et vous avancez dans la mesure même où vous interrogez. Puisque l'interrogation est à l'intelligence ce que le désir est à l'amour. Il faut désirer beaucoup pour aimer un peu. Il faut désirer beaucoup pour aimer un peu. Sur terre, le désir, c'est ce qui doit nous animer tout le temps. Oui, si vous attendez d'aimer sans désirer, vous n'aimerez jamais. Aimer, le désir est le cheminement de l'amour. C'est le désir dans l'amour. C'est pour ça qu'on doit avoir un grand désir. Tant qu'il y a un désir, ça va. Quand il n'y a plus le désir, fichu. On s'endort. C'est le désir qui doit se renouveler tout le temps. À ce point de vue-là, Sainte Catherine de Sienne, c'est la sainte du désir. Pour l'intelligence, l'interrogation nous ouvre à la recherche. Quelqu'un qui n'interroge plus ne cherche plus. Et c'est terrible de ne plus chercher. Alors, on est immobile, stagnant, puis on n'avance plus. L'interrogation, c'est l'intelligence qui est en désir, si j'ose dire. C'est l'intelligence qui cherche. Alors elle interroge. Mais une véritable interrogation, c'est pas répéter « j'interroge ». Est-ce que vous interrogez vraiment ? C'est vous dites que vous interrogez, mais l'interrogation, c'est l'intelligence qui a saisi quelque chose et qui veut en saisir plus. Celui qui ignore complètement n'interroge pas. Il faut déjà connaître en partie. Mais on ne connaît qu'en partie. Alors c'est justement ça qui nous permet de saisir les sensibles propres. Les sensibles propres sont propres à chaque sens. Les sensibles communs sont communs à tous les sens. Les sensibles communs, c'est le support quantitatif. Tandis que les sensibles propres, c'est qualitatif. C'est quelque chose d'unique. Mon toucher a quelque chose d'unique comme connaissance. Ma vue a quelque chose d'unique comme connaissance. L'ouïe a quelque chose d'unique comme connaissance. Chacun des sens, le goût, l'odorat. Alors ça, c'est plus difficile, hein, mais au fond, un chien. Et tu as vu un chien de chasse, hein, il renifle tout le temps. Il se fout dans les yeux. Il cherche. Alors évidemment, on comprend que beaucoup d'animaux qui ont passé. Et donc l'odeur du lièvre, l'odeur du reste là. et peut-être que beaucoup d'autres ont passé entre deux. L'odorone a comme discernement quelque chose de très difficile. Hein. Mais c'est intéressant de voir ça, ce que je vous ai dit. Une chose qu'on n'a absolument pas faite au point de vue recherche philosophique et qui serait très intéressante, de voir que les interrogations sont liées aux cinq sens. Parce que nous sommes des êtres intelligents qui sentons. Nous sommes intelligents jusque dans notre corps. Notre intelligence pénètre notre corps et pénètre nos cinq ouvertures. Je suis curieux quant à la vision. Il y a des gens, et c'est du reste très curieux de voir ça, c'est que les curiosités des gens sont différentes. Il y a des gens très curieux. C'est agaçant, du reste, au bout d'un certain temps. Ils veulent tout savoir. On a envie de leur dire, mais taisez-vous. Hein. Vous en savez assez, mangez votre beefsteak. Puis, ils veulent tout savoir. Alors, il faut dépister, à ce moment-là, quel est le sens qui est particulièrement exaspéré. Il est inquiet. Enfin, il y a une inquiétude derrière ces interrogations constantes. Il y a des interrogations bonnes, et puis il y a des interrogations qui ne sont pas bonnes, ils sont malhonnêtes. Ça vous pousse dans vos retranchements. Et vous n'avez pas envie de vous pousser dans vos retranchements, vous n'êtes pas une place publique. Vous avez votre intériorité, vous avez votre vie. Or, en interrogeant, vous voulez vous démasquer ça, mais pas du tout. C'est très curieux, mais c'est, vous voyez, là, on est devant un point de vue psychologique. Le point de vue psychologique joue, là. Et là, c'est très bien d'étudier vos interrogations à vous, d'avoir conscience qu'on interroge. Vous n'avez pas conscience de la première interrogation que vous avez posée. Je crois que l'enfant, c'est qui papa ? Il a discerné papa de tous les hommes. Comment il a fait ce discernement ? Au début, tous les hommes, c'est papa. Puis à un moment, discernement. Ah, vous voyez, sensible propre permet le discernement. Le sensible commun, au contraire, ça fait la fusion. Bon, il y a des hommes qui sont pour la fusion. Fusion, point de vue connaissance, fusion, point de vue de l'amour. Bon, alors que la connaissance veut la distinction, être distingué. Être distingué. C'est savoir distinguer. Or, la distinction se fait par les sensibles propres. Les sensibles communs, le nom le dit, ils sont communs. Et vous n'avancez pas intellectuellement quand vous restez dans le sensible commun. Vous vous contentez des connaissances communes. On, c'est le on. Bon, on dit ça, on dit ça. Le « on » correspond à ce que tout le monde connaît, tout le monde cherche. Sensible comme les sensibles propres, au contraire, c'est tel sens. Ma vue veut savoir si ce que je vois est réel, existe. Parce que facilement, la vision conduit à l'imaginaire. Je crois que la vision, c'est le sens le plus proche de l'imaginaire. Or, l'imaginaire, c'est justement celui qui se contente de ce que tout le monde dit. Les gens qui sont avides, vous voyez, de savoir, ne distinguent plus. On a dit ceci. Qui ont ? Ah, je ne sais pas. Bon, si vous ne le savez pas, alors je laisse tomber. Ça ne m'intéresse pas. On a dit ceci. Si on récolte tous les on-dit, on n'avance plus. On reste dans le domaine commun. Tous les sensibles propres s'enracinent dans la quantité. C'est le domaine de la quantité, les sensibles communs. Le sensible commun, c'est pour ça qu'on dit qu'il est commun, il est saisi par tous les sens. C'est ce qui fait l'union des divers sens, des diverses sensations. Autre, la vision. Autre, le toucher. Autre, l'ouïe. Autre, sentir. Il y a une altérité. Et cette altérité vient du sensible propre. Je saisis la lumière. Est-ce que vous avez touché la lumière ? Posez-vous la question, justement. Je vois. Mais on est tellement habitué de voir qu'on ne s'arrête pas. Alors, voir. Quand vous êtes à côté d'un aveugle, c'est toujours très intéressant. Vous êtes respectueux, parce qu'il ne faut pas lui faire de mal. Mais c'est très intéressant de voir l'univers de l'aveugle. Alors, le sensible de la vision est arrêté et vous faites alors des comparaisons avec les autres sens. Autrement dit, nous sommes faits pour les cinq sens. Et si, par malheur, un sens ne marche plus, il y a comme une espèce d'emprunt très curieux qui se fait par un autre sens. L'analogie joue. On compare. Ah, ce que vous dites, au point de vue vision, on le dit au point de vue du toucher. On passe très vite, hein, de la vision au toucher. Mais vous n'avez jamais touché la lumière. Vous avez touché la chaleur de la lumière, parce que la lumière est chaude. Ah, voyez, quand vous dites la lumière est chaude, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous êtes passé de la vision au toucher. Et vous avez vu là certaines analogies entre ces deux sens-là. Le sensible commun reste sensible commun. Le sujet des sensibles communs, c'est la quantité. Or, tout être physique implique la quantité, plus ou moins. Vous avez des êtres très maigres et vous avez des êtres très gros. Il est bien évident que l'être très puissant et très gros, sa quantité, vous n'en doutez pas. Et vous l'éprouvez. On l'éprouve quand on est en avion. Hein. Chacun a sa place et on a pris la place commune, la taille commune. Alors il y en a qui sont plus petits. C'est très agréable de faire un voyage à côté de quelqu'un maigre. Il nous laisse un peu plus de place. Tandis qu'en Vous avez quelqu'un d'énorme à côté de vous. Ah, vous au moins, vous réfléchissez sur la quantité. Et vous voyez que vous n'en doutez pas. C'est pas sensible propre, c'est la quantité. Vous pouvez très bien arriver à discerner, et il faut le faire vous-même, hein, parce que ça ne se prouve pas, ça. Autre chose est toucher, autre chose est voir la lumière. Vous n'avez jamais touché la lumière, et vous n'avez jamais vu la chaleur. Ah, vous avez vu la fumée, mais la chaleur, il faut que vous mettiez le doigt dedans. Cette eau, ah, elle est chaude, elle est bouillante. Bon, il y a un effet extérieur, l'eau qui boue, mais quand l'eau ne boue pas, vous ne voyez pas la chaleur. Vous n'avez jamais vu la chaleur. Alors, voyez, vous faites vous-même ce petit raisonnement qui montre que chaque sens saisit quelque chose d'original. Et ce qui est intéressant, c'est de saisir l'originalité propre de chaque sens. Cette originalité propre de chaque sens existe. L'être se donne à moi par la chaleur. L'être se donne à moi par la lumière. L'être se donne à moi par le son. L'être se donne à moi, c'est vrai. L'être se donne à moi par la quantité. Alors, ce que l'être m'est donné par la quantité, c'est tout à fait commun. C'est tout à fait commun. Tandis que ce que la lumière me donne de l'être, ah, c'est propre à l'œil. Et si l'œil ne marche pas, vous prenez, vous avez l'expérience, vous vous réveillez la nuit, dans une chambre nouvelle. Pas dans votre chambre que vous connaissez par cœur, mais dans une chambre, première fois que vous couchez là, et vous vous réveillez la nuit vraiment dans le noir complet. Qu'est-ce que vous faites? Vous touchez, et par le toucher, vous arrivez à voir votre lit, la porte. Vous arrivez à distinguer, mais le toucher ne vous donne pas les distinctions que la vue vous donne tout de suite. Vous pouvez vous tromper lourdement par le toucher. C'est même très, très curieux comme expérience. Vous avez le toucher, grâce au toucher, ah, vous avez la possibilité d'allumer l'électricité. Tiens, ah, je suis là. Je crois que j'étais tout à fait. Vous voyez, ben, c'est une expérience commune qu'on fait ça, entre être éveillé et puis la nuit. Et pourquoi vous n'avez pas distingué à vous chercher, à voir? C'est qu'en effet, il n'y avait aucune distinction possible à faire sur le mur. J'avais touché le mur, mais si j'avais connu très bien cette chambre, j'aurais fait le discernement. J'aurais vu quand même que la porte était d'un côté et pas de l'autre. Mais très très vite, vous avez, voyez, fait cette expérience. Vous vous levez, vous fermez, c'est noir complètement. Et vous tournez plusieurs fois. Alors vous ne savez plus rien du tout. Plus rien du tout. Si vous avez la mémoire, que vous êtes levé, que le lit est là, vous avez au moins une référence, votre lit. C'est, tu as beaucoup de références comme celle-là. Mais si vous avez fait quelques pas et que vous avez eu le souci de tourner sur vous-même, alors là, vous êtes vraiment perdu. C'est très curieux. Il faut faire cette expérience des différents sens pour arriver à saisir avec netteté les sensibles propres et les sensibles communs. Et de voir que dans les expériences, les expérimentations, pas les expériences, parce que l'expérience tout court nous fait tout le temps la différence entre sensible propre et sensible commun. Mais quand vous êtes uniquement dans l'expérimentation, c'est une expérience donc déjà très élaborée, très conditionnée. Qu'est-ce que vous avez comme point de repère? Ce que votre microscope ou votre télescope, vous, microscope, vous voyez l'infiniment petit, mais vous ne le touchez pas. Vous n'avez jamais touché ce que le microscope vous donne. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez, là, je prends cet exemple-là parce que c'est très important pour nous. On vit aujourd'hui une vision scientifique du monde. C'est-à-dire une vision qui n'est pas du tout la vision immédiate que vous touchez. Vous vivez dans un monde, le fruit d'instruments très perfectionnés qui vous permet de voir cette infiniment petit. Mais vous ne le touchez pas. Vous le voyez. Au bout d'un certain temps, vous n'avez plus qu'une science de la vision. Et c'est vrai. Vous décrivez ce que vous voyez, mais vous ne le touchez pas. Il n'y a plus le contrôle du toucher. Or, le toucher, c'est le sens de l'existence, hein. La vision seule ne me permet pas de dire « ceci est ». Vous devez dire « vu à travers un microscope de telle dimension, de telle qualité, je vois ceci. Est-ce que cela est vrai ?» Point d'interrogation. Je n'ai pas le contrôle du toucher. C'est très curieux, ça. Alors, en mathématiques, vous n'avez pas besoin d'avoir le contrôle du toucher. Vous n'avez jamais touché l'être mathématique. Vous l'avez atteint intellectuellement, imaginativement. L'intelligence joue très fort avec l'imagination. On est dans le domaine de la quantité. Il n'y a pas de sensible propre en mathématiques. Vous n'avez que le divisible, uniquement le divisible. Et vous faites des relations dans le domaine du divisible, dans le domaine quantitatif. Aucune rectification du toucher. Vous n'avez jamais touché l'être mathématique. Vous ne savez pas si l'être mathématique a une barbe ou n'a pas de barbe. L'être mathématique, il a l'immense avantage, c'est qu'il est neutre. Il est divisible. Il est divisible. C'est le divisible pur. Le divisible pur. Donc, le quantitatif pur. Et c'est dans le quantitatif, vous avancez par mode de relation. La quantité permet de vivre dans un phénomène de relation pure, de relations dont vous ne savez pas si elles sont réelles ou pas réelles. Au bout d'un certain temps, vous ne savez plus où se trouve exactement le réel. Vous êtes déjà très loin, parce que vos relations du divisible se sont faites à différents degrés. Et donc, vous ne savez plus. C'est extrêmement curieux, ça. Oui, alors vous avez l'alliance de l'intelligence et du domaine sensible, mais le sensible, pas des sensibles propres, mais des sensibles communs, le divisible. Le divisible, c'est la qualité propre de la quantité. Et vous vous installez dans ce domaine de la quantité. Vous voyez, c'est ça qui est très important. Est-ce que la quantité conduit à l'être ? Est-ce que le sensible propre, lui, conduit à l'être ? Alors, bon, c'est la question posée. Hein. C'est que la quantité, le sensible commun, c'est déjà l'abstrait. Le sensible propre ne connaît pas l'abstraction. Et parce qu'il ne connaît pas l'abstraction, il est existentiel. Le sensible, comme le sensible propre, fait toucher une réalité sensible. Tandis que le sensible commun ne fait pas toucher une réalité existante. C'est mon intelligence qui a abstrait. La première abstraction. Est-ce que l'universel existe ? Non. Et il y a l'histoire d'une maison hantée. On m'avait raconté ça, et c'est réel, hein, cette histoire, c'est pas de la blague. Une maison hantée. Pas drôle, mais une maison hantée. Dans le fin fond de la Bretagne, une maison hantée. Habitée, on ne sait pas par qui. Est-ce que c'est le démon ? Est-ce que c'est les âmes des défunts ? Je ne parle pas en théologien. Je parle de l'opinion commune. On ne sait pas. Et alors, il y avait des amis, et on leur avait raconté ça, ils disaient, oh, tout ça c'est de la blague, c'est des choses de bonne femme, de la blague. Ils ont raconté ces choses-là. Alors, on dit, mais non, pas du tout, il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Alors, ils ont voulu faire eux-mêmes l'expérience en jouant le jeu du fantôme, vous voyez. C'est-à-dire s'habillant comme des fantômes et jouant ce rôle la nuit pour qu'on montre que, ben oui, tout ça c'est de la bonne blague. Alors, ils ont si bien joué ce fantôme, ils ont eu peur les uns des autres. Non, on ne pouvait plus savoir si vraiment c'était un fantôme ou une réalité. Ils s'étaient plongés dedans. Pourquoi ? Les sensibles communs disparaissaient. Et n'était plus que devant des sensibles, quand les sensibles propres disparaissaient, et il n'avait plus que des sensibles communs. Alors, ça s'est très mal passé, parce qu'ils ont joué leur rôle à fond. Ils ne voulaient pas se démasquer. Alors, ils ne savaient plus si c'était un fantôme ou si c'était quelqu'un sensible commun. Alors, à un moment donné, ils ont dit, il n'y a plus qu'une manière de distinguer si c'est un fantôme ou un vrai, c'est de tirer avec un revolver. Et celui qui croyait que c'était un fantôme, uniquement sensible commun, c'était le type réel qui a reçu la balle. Donc, il a tué son compagnon. Mais et c'est une chose vraie. Bon, n'ont pas réfléchi, mais m'ont raconté cette histoire. Et je vois que c'est la question sensible commun, sensible propre. À un moment donné, quand on est les sensibles communs, on ne sait plus si c'est vrai ou pas vrai. Alors, on veut avoir la réalité, on cherche la réalité, et alors on prend des mesures extrêmes, on joue du revolver. Si c'est un fantôme, on ne le tuera pas. La balle reviendra. C'est pour vous montrer que, au fond, on perd la tête quand on ne peut plus vérifier le vitose. Ben, le vitose a un fondement philosophique qui est très intéressant, parce que c'est retrouver les sensibles propres. Le vitose ne fait pas la différence entre les sensibles communs et les sensibles propres. Mais en réalité, c'est ça. On vit dans un monde de sensibles communs extrêmement élevés, extrêmement poussés, et on perd le sens sensible propre. Et alors, on veut le retrouver. Et c'est vrai qu'en le retrouvant, on retrouve le réel. Et on arrive à distinguer le réel du commun. Et c'est la seule manière de pouvoir dormir. Quand vous n'arrivez pas à dormir, c'est que vous êtes dans les sensibles propres, dans les sensibles communs. Il faut retrouver. C'est pour ça que quand on ne dort pas, la seule manière, c'est de descendre de son lit. Et puis, prier pour retrouver le réel. Vous êtes enveloppé de sensibles communs et vous ne dormez pas. Vous ne pouvez pas dormir. Vous êtes lié aux sensibles communs. Il faut retrouver. Et la prière, pour celui qui est habitué à la prière, la prière nous fait retrouver le monde réel. On adore Dieu. On prie Jésus. On prie Marie. On quitte ce monde imaginaire dans lequel on est comme dans la ouate. Vous voyez que c'est une distinction extrêmement importante qui a été perdue avec Freud. Complètement perdu. Freud a complètement disparu, sensible propre et sensible commun. Et notre psychologie, très souvent, est freudienne. Alors la psychologie ne joue plus. Les sensibles propres, vous ne pouvez pas les faire revivre dans la relecture. Qu'est-ce que garde l'imagination ? C'est un problème très important, ça. Est-ce que l'imagination garde les sensibles propres ? Ou est-ce que l'imagination ne garde que les sensibles communs ? Et donc, dans votre relecture, vous reprenez un monde uniquement sensible au commun. Alors que vous avez vécu les sensibles propres, mais vous ne les avez pas vraiment vécus. Vous les avez vécus enveloppés des sensibles communs. Parce que si vous aviez vraiment vécu les sensibles propres, vous feriez vous-même la distinction. Ah, pardon, tout ça c'est ma mémoire. Et je retiens les sensibles communs, très bien ça. Les sensibles propres, je ne peux pas les réanimer, les sensibles propres. Il faudrait refaire vivre la chose. Je refais vivre la chose imaginativement. Votre imagination, elle retient les sensibles propres ou les sensibles communs? Ça, vous pouvez l'analyser. Hein. Quand vous faites un examen métaphysique. Un examen métaphysique, c'est justement d'essayer de voir les deux. Mais c'est là où la philosophie est très importante pour que je vois que la psychologie demeure abstraite. C'est forcé, c'est du vécu. Le vécu est abstrait. Le vécu, c'est les sensibles communs qui sont dans l'imagination. Et l'imagination, c'est le vécu réanimé par vous. Et vous ne pouvez pas réaliser le sensible propre. Ça, c'est la réalité existante. Il y a donc là un chantier extrêmement important. Parce qu'une fois que vous avez saisi ça, vous situez très bien où se trouve la psychologie. Et c'est très important dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que la psychologie veut remplacer une conscience métaphysique de la personne. Bon, alors nous allons reprendre le problème qu'on avait la dernière fois entre substance première, substance seconde. Je cherche, au plan métaphysique, quelle est la cause formelle, la cause selon la forme. Je dis cause formelle. En réalité, il vaut mieux dire la cause selon la forme, la cause selon la détermination de l'être. L'être m'est donné dans l'expérience, pas dans l'expérimentation, dans l'expérience. Une expérimentation, c'est déjà une expérience qui contient de l'abstrait, qui n'est pas l'expérience directe de ce qui est. Et de ce qui est sans instrument. Je sais très bien qu'on peut mettre des lunettes, mais les lunettes, c'est pour toucher le réel. C'est pas pour que je me fabrique un réel avec mes lunettes. Non, mes lunettes sont faites uniquement pour corriger la nature qui affaiblit. C'est très différent. C'est pas un microscope, les lunettes. C'est essayer de voir le réel d'une façon plus précise. Parce qu'autrement, je devrais dire... J'enlève les lunettes pour faire ma métaphysique. Puis-je faire la métaphysique avec des lunettes? Alors, vous voyez, votre métaphysique, elle est faite avec des lunettes. Alors, je devrais dire, bon, j'avais des lunettes de tant de degrés il y a 20 ans, maintenant, donc ma métaphysique est tout à fait différente. J'ai une vision tout à fait différente de la substance. Non, je vois de la même façon. Parce que les lunettes, c'est un art coadjuvans naturam. C'est comme la béquille, ars coadjuvans naturam. C'est pour corriger un mal. Et uniquement, c'est pas pour me donner une vision optimiste de la réalité. Si je ne vois pas bien, j'ai une vision pessimiste de la réalité. Tandis que tu dis, ah, je vous montre un monde merveilleux. Non, non. C'est corriger une faiblesse de la nature. C'est très différent. Hein. C'est pas du tout la même chose. Pour bien distinguer substance première et substance seconde, il faut montrer que la table des prédicaments, elle est présupposée connue. Elle est le préambule de la philosophie. C'est dans les années où on prépare la philosophie qu'on doit arriver à cette première distinction. Tous, nous devons passer par là. Nous utilisons notre langage, mais notre langage entend qu'il signifie quelque chose, donc qu'il soit anglais ou français, qu'il soit allemand ou français, ou anglais, peu importe, qu'il soit chinois. Alors là, j'aimerais qu'un chinois puisse faire la table des matières qu'Aristote a fait, des catégories. Je ne sais pas ce qu'il donnerait, ce serait intéressant. Je distingue la quantité. Vous pesez tant de kilos. C'est votre première expérience de la quantité. Ça a été la pesanteur de votre corps. Et surtout la pesanteur de votre petit frère. Ah, tu es lourd. Tu as grossi. La quantité. La quantité. L'expérience de la quantité, c'est circuler la nuit dans une forêt. Ah, une très bonne expérience. Je me souviens de cette expérience qui n'était pas drôle du tout. C'était sitôt la libération. Et donc il y avait des quantités de déserteurs. Traverser la forêt de Compiègne le soir, la nuit, seul. C'est extraordinaire comme expérience. Et il faut que le danger soit présent pour qu'on fasse plus d'attention. On est bâti ainsi comme ça. Quand il n'y a aucun danger, on ne fait pas attention. Mais quand il y a un danger, on fait attention à sa peau. On sait. Alors, on ne peut pas dire tout yeux et tout oreille, parce que tout yeux, on voit rien. Alors, on est tout oreille. Et vous êtes tout oreille quand vous ne voyez plus rien. Alors, vous écoutez. Et c'est très extraordinaire de voir le monde de la nuit et le monde du jour. Et ça se voit particulièrement dans une forêt. Et vous avez le monde de la quantité. Le monde de la quantité se discerne beaucoup mieux quand il n'y a plus de lumière. L'expérience que vous faites dans la chambre que vous ne connaissez pas, chambre d'hôtel que vous ne connaissez pas, chambre d'amis que vous ne connaissez pas. Et vous êtes là devant le monde de la quantité. Vous voyez que la quantité, c'est la manifestation. Tous les êtres se manifestent par la quantité. Et la manifestation se fait d'une manière particulièrement forte par la quantité. Oui. Vous devez traverser une longue forêt. La quantité, elle est dans le temps. C'est pas pour 5 minutes. 5 minutes, vous faites la traversée rapidement. Et c'est pour 2 heures, 3 heures, 4 heures. Vous avez la quantité dans le temps. Vous avez le sens de la quantité lorsque le dentiste travaille vos dents. Et vous avez un sens très curieux de la quantité parce que vous ne voyez pas le travail qu'il fait. Alors, on sait actuellement que voir aide beaucoup à supporter la douleur. Tandis que quand vous ne voyez rien, les chers dentistes, il y a 100 ans, ils voyaient eux, mais vous, vous ne voyez rien. Et vous étiez un patient qui ne voit rien. La douleur est beaucoup plus forte quand vous n'êtes que dans la quantité. Parce que le temps devient très long. C'est curieux, ces abstractions, vous voyez, qui sont courantes dans notre vie. Et le philosophe doit être attentif à ses expériences. Alors, je ne vous demande pas de tout se passer chez le dentiste. Je demande au dentiste de vous travailler lentement pour que vous ayez cette expérience du temps, la quantité dans le temps. Vous avez cette expérience à la quantité dans le temps, le carême. Premier dimanche, deuxième, c'est le temps. Le temps ne modifie rien du tout. C'est pour ça qu'il est si long. Si le temps se modifiait, alors on l'a modifié, parce que la liturgie, elle est pour les hommes, alors les 40 jours, on les ponctue avec les dimanches. Premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, quatrième dimanche. Et les ponctuer par le temps, donc le nombre, diminue la quantité. Quand vous ne pouvez pas nombrer, la quantité est infinie. Alors vous avez l'expérience d'une quantité infinie. L'infini, c'est quantitatif. Il n'y a plus de terme. Et ça dure très longtemps. Ça, c'est l'expérience de la quantité pure. La substance ne peut pas être dans la quantité pure. La quantité, c'est extérieur à ce qu'on est. C'est extérieur à ce que je suis, la quantité. Je suis le même au début du carême et à la fin. Oh, je me suis amaigri un petit peu. Donc j'ai fait un bon carême. J'ai 4 kilos en moins. Donc c'est un bon carême. 1 kilo par semaine. C'est pas si mal, hein. Une cure de jeûne, parce qu'il y a ces cures de jeûne, n'est-ce pas, où on prend rien du tout. Pour vous faire guérir, il faut tout reprendre. Alors on vous fait une cure de jeûne. Vous avez le sens de la quantité à ce moment-là. J'en ai pas fait, mais j'ai écouté les réactions des gens. Alors ils disent, ah, c'est au début que c'est très dur. Après, on tombe dans quelque chose de commun. C'est très curieux, ça prouve que, au fond, au début, vous avez ponctué, et la quantité était ponctuée par des déterminations. Et vous ponctuez la quantité par des déterminations. La détermination termine et finit la quantité. Vous voyez ? La différence de la personne qui a un champ et qui met au champ une clôture. Quelle différence y a-t-il par rapport à l'homme? Un champ où on ne voit pas les limites. Il y a un autre champ à côté. Alors on dit, ah là, ça va jusque-là à peu près, puis on met une limite. Dès que vous ponctuez, dès que vous déterminez la quantité, alors l'avoir vient supprimer ce qu'il y a de terrible dans la quantité, c'est qu'il n'y a pas de limite. La quantité par elle-même n'est pas limitée. C'est pour ça que les mathématiques, quand vous déterminez la relation ou du chiffre ou de la quantité, c'est vous qui le faites. Vous possédez la quantité une fois que vous la déterminez. Alors que la quantité indéterminée, elle vous échappe. La quantité ne structure absolument pas la réalité. Elle vous met dans le commun. Donc, la substance seconde et première peut impliquer la quantité, mais la quantité ne dit rien sur ce qu'est la réalité. La quantité vient pour mettre le divisible dans l'être. Mais le divisible, ce n'est pas ce qui est. Le divisible, c'est l'attente d'être divisé. C'est la potentialité par rapport à ce qui est divisé. Ce qui est divisé, il faut diviser pour régner, hein, le vieil adage. Il faut diviser pour régner. Vous régnez très difficilement sur quelque chose qui n'est pas divisé. Vous régnez davantage sur des petits groupes. Vous divisez la quantité. Pourquoi faites-vous des petits groupes ? Pour que la quantité devienne plus en ma possession. Dès que vous divisez, vous possédez. C'est très curieux, cette chose-là. Et vous, dans tous les domaines, hein, vous faites cette expérience. La quantité, c'est le divisible. Et le divisible, en lui-même, échappe à ma possession. Parce qu'il peut être infini. Il n'est pas terminé. Il n'est pas déterminé. La qualité, au contraire, c'est la détermination. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de confondre la substance avec la qualité. Parce que tous les deux, substance et qualité, ça détermine. La qualité détermine. Alors, comment va-t-on distinguer substance seconde et qualité? On s'aperçoit d'abord que le domaine de la qualité est très multiple. Il n'y a pas qu'un seul système de détermination. Vous déterminez par les qualités physiques. Vous êtes souple, c'est une qualité. La rigidité n'est pas une qualité. On a l'expérience de ça. Au fond, c'est l'expérience de notre corps. Hein. Notre corps nous fait comprendre ce que c'est que les qualités, il nous fait comprendre ce que c'est que la quantité, c'est sûr, très très nettement. Mais il nous fait comprendre aussi ce que c'est que la qualité. Je suis souple. La souplesse du gosse. Quand on voit dans le ski des gosses qui arrivent à faire des chutes où ils tournent complètement sur eux-mêmes, on devient rond. qualité de la souplesse. Alors, on devient très mobile. Tandis que celui qui est droit et qui n'est plus souple, il n'y a pas de qualité. Les qualités, c'est d'abord les qualités de mon corps. Alors, les qualités sont très proches de la substance seconde. Ça qualifie. Mais qualifie d'une façon seconde. C'est ça qu'il faudra voir.